Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Lamiro. On va parler sport et réseaux sociaux aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Bourdois-Chupin. Il est responsable communication de la FFBB, Fédération Française de Basketball. Bonjour Sylvain.
Bonjour Fabrice.
Je suis super content de t'accueillir dans l'empreinte digitale.
Moi aussi, je suis heureux de découvrir cet univers.
Alors Sylvain Bourdois-Chupin, il travaille dans la Fédération Française de Basketball, voilà, c'est un sportif dans l'âme, donc on va échanger avec lui un petit peu les bonnes pratiques de la Fédération sur les réseaux sociaux, sur la communication digitale, et puis on va essayer de faire un petit peu le tour de tout leur dispositif, qu'on puisse un petit peu découvrir comment une fédération importante, le basketball c'est un sport majeur en France, même si on le voit un petit peu moins que le foot ou d'autres sports, ça reste un sport vraiment majeur, donc on va pouvoir un petit peu découvrir tout ce qu'une belle fédération comme la Fédération Française de Basketball FBB peut mettre en place. Alors Sylvain, est-ce que je peux te laisser te présenter ?
Bien sûr. Alors, bonjour à tous. Sylvain Bourdois-Chupin, je suis responsable communication à la Fédération de Basket. Je suis particulièrement en charge des supports et des outils. C'est-à-dire que c'est moi qui vais avoir tout à la charge du développement des supports de communication digitaux, mais également print, mais également visuel. Donc je travaille avec une équipe de trois personnes principalement, et puis on a une équipe du contenu qui, elle, va être chargée d'alimenter tous ces supports, tout simplement. Donc cette organisation est un peu nouvelle pour nous, elle a été mise en place depuis janvier dernier, donc on a eu la chance de faire tout le confinement avec cette organisation. Ça nous a peut-être un peu aidé d'ailleurs.
Parfois, des fois, il faut des circonstances, elles peuvent être positives comme elles peuvent être négatives, mais dans ton cas, c'était plutôt un avantage alors.
Oui, parce qu'en fait, on avait un service de communication d'une dizaine de personnes. La direction a souhaité le splitter en deux, pas de façon égale. D'un côté, on est quatre, de l'autre côté, ils sont donc six. Donc, il y a toute la partie contenu qui est gérée donc, par un collègue. Mettre en place toutes les chartes éditoriales, savoir ce qu'on va mettre sur les supports. Et de l'autre côté, nous, on est plus un service transversal où on va apporter des solutions à des problématiques. On va nous demander, demain, je voudrais communiquer auprès des 12-25 ans. Est-ce que vous me conseillez de créer une page Facebook? Et là, on va leur dire non, bien sûr que non, pas une page Facebook, plutôt un compte TikTok. Donc voilà, c'est ce genre de problématiques qu'on a quotidiennement.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous présenter justement le dispositif digital de la Fédération ? Vous êtes quand même bien présent.
Ouais. Alors, pour vous présenter le dispositif digital de la Fédération, il faut revenir un petit peu en arrière. Donc, je vais faire un petit cours d'histoire pour les plus jeunes. Facebook a été créé en 2009 au sein de la Fédération. Attention, notre première page Facebook est arrivée en 2009, c'était celle de la Fédération. Au début, on l'a plus vu comme un moyen de communication supplémentaire, pas vraiment comme un réseau social, il n'y avait pas vraiment d'échange avec les fans à l'époque encore. Et voilà, et petit à petit, d'autres réseaux sociaux sont arrivés. À chacune des sorties, on se demandait si on y va, si on n'y va pas. Le dernier en date étant TikTok, où on est arrivé sur la plateforme il y a que quelques mois, début septembre, je dirais. Donc ça, c'est des choix stratégiques. Nous, la fédération se doit d'être présente pas partout, parce qu'il y a certains supports qui n'ont pas vocation à être utilisés par la fédération, comme sur Pinterest, où nous avons fait le choix de ne pas y aller, parce que tout simplement, les photos ne nous appartiennent pas. On paye un prestataire pour prendre les photos, et on ne libère pas forcément tous les droits sur chaque photo, parce que ça nous coûterait beaucoup trop cher. Donc, on ne peut pas aller sur Pinterest en tant que propriétaire de l'image. Donc, c'était ça qui était limitant par rapport à Instagram où on utilise l'image de façon différente. Où là, on peut utiliser juste avec les droits médias, entre guillemets. Donc, c'est toute cette problématique. Donc, la fédération est plutôt présente sur l'ensemble des réseaux sociaux. C'est une démarche qui se veut un peu à l'origine comme une solution parce que nous sommes une fédération de clubs contrairement à d'autres fédérations qui peuvent être des fédérations de licenciés. Donc nous on ne s'adressait jamais aux licenciés en tant que tels. On passait par la ligue puis par le comité qui s'adressait lui-même au club, qui le club s'adressait aux licenciés. Donc quand vous envoyez un message à votre licencié, vous perdez beaucoup d'efficacité. Les réseaux sociaux nous ont permis de réduire ces distances, tout simplement parce que Et il nous arrive maintenant de répondre directement aux fans sur la page Facebook, sur le compte Twitter, sur le compte Instagram encore plus aujourd'hui, parce que ça crée ce lien de côté fan. Parce que moi, j'ai la chance de travailler dans le sport et nous avons des vrais fans. Des gens vont suivre des marques qui ne sont pas des marques engageantes, je ne sais rien, des marques alimentaires, par exemple, où c'est assez compliqué de dire « je suis très engagé derrière cette marque ». Par contre, sur une marque de sport, c'est assez facile de dire « allez les bleus ». Quoi. Donc, bah, les gens le disent en vrai et ils le disent aussi sur les réseaux sociaux. C'est aussi pour ça qu'on est présent à ces endroits-là. Alors, nous, on a souhaité, une fois qu'on avait décidé quel réseau on occupait, au fil du temps, on a décliné les différentes pages. Aujourd'hui, on a 5 pages majeures sur Facebook, en fonction des sujets. On va avoir les équipes de France d'un côté, on va avoir la fédération de l'autre, donc c'est celle qui a été créée à la base. On va avoir une équipe de France masculine, une équipe de France féminine, on va avoir le 3-3, on va avoir la ligue féminine. Voilà, donc ça c'est des pages qui nous permettent, nous, aujourd'hui, de nous adresser à nos différents publics avec énormément de contenu. On essaie de leur apporter voilà, tous les résultats, suivre les informations, mais également c'est des voies officielles, c'est des canaux officiels, j'insiste beaucoup là-dessus parce que nous sommes quand même une fédération, on est donc une institution entre guillemets, et aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas encore il y a, allez, on va dire 10 ans, ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux fait valeur de voix officielle. C'est-à-dire qu'on va citer, les médias citent, vu sur Twitter, vu sur Facebook, voilà, c'est officiel quand vous le publiez, ce qui n'était pas le cas avant. On n'a jamais vu ça avant, par exemple, sur un site internet, écrit sur son site internet. C'est très peu vu, quoi. Par contre, si vous le dites sur Twitter, là, tout de suite, ça a beaucoup plus de poids. Donc, c'est des changements un peu de consommation. Aujourd'hui, il y a des choses, on fait moins de communiqués de presse, on envoie plus de Twitter. Voilà, c'est des outils qui nous ont permis un peu de nous rapprocher des gens.
Justement, est-ce que ces réseaux sociaux sont un axe essentiel dans votre dispositif de com? Vous êtes presque à 500 000 followers, sans compter les pages équipe de France et tout. Est-ce que c'est d'essentiel pour vous?
Alors aujourd'hui, oui, les réseaux digitaux sont essentiels pour la fédération, car aujourd'hui, on s'aperçoit bien que le print, c'est très compliqué. Ça coûte tout de suite très très cher quand vous voulez envoyer une affiche dans chaque club. On a 4500 clubs, donc juste envoyer une affiche, donc il faut déjà les imprimer, et ensuite, il faut les frais postaux pour les envoyer. Quand vous faites une communication sur votre page Facebook, en ciblant précisément une zone géographique, ça vous coûte quand même beaucoup moins cher. Donc ça, c'est devenu un argument de poids. Le coût que ça représente. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est l'engagement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on s'est créé une véritable communauté. Aujourd'hui, la fédération de basket, c'est un peu moins de 700 000 licenciés et on a, comme vous l'avez dit, 600 000 fans sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un équivalent. Alors, je ne dis pas que les 600 000 fans sur les réseaux sociaux sont les mêmes que les 600 000 licenciés. Ça, c'est ce serait une erreur de penser que c'est les mêmes, parce que ce ne sont pas les mêmes forcément, même si on a très peu d'outils aujourd'hui qui nous permettent de dire qui sont nos fans sur nos réseaux sociaux. On y travaille. Ça va être un gros travail qui va venir dans les 2-3 années à venir, où c'est vraiment cette efficience entre le réel et le digital. Donc nous, le digital est vraiment très, très important pour nous, parce qu'on s'adresse à différents publics sur différents canaux, et ils sont clairement identifiés.
Ah, c'est vrai que dans le sport, c'est un peu atypique parce que tu peux avoir différents publics. En effet, tu as le spectateur hein, qui aime le sport, qui est curieux de tous les sports et qui s'abonne à plusieurs choses. Tu as ensuite le spectateur, même si amateur précisément de basket. Et puis, tu as encore une étape supplémentaire, c'est le licencié. Alors là, c'est celui qui vraiment adhère aux valeurs de ce sport et qui s'engage et qui y joue régulièrement, etc. Donc, c'est vrai que tu peux avoir cette problématique, toi, en tant que... Bah, t'es pas une marque comme une autre, en fait. T'as vraiment, sur un domaine particulier, tu as des clients, entre guillemets, des consommateurs qui peuvent aller un peu plus loin que les autres en étant licenciés.
Alors, on a ça. Alors, nous, on a identifié un peu plus de strates que ce que tu viens de dire. Nous, on commence par le digital. Donc, ce qu'on appelle le digital, bah, c'est ceux qui sont abonnés sur Facebook, Twitter, Instagram, enfin, peu importe, et qui nous suivent, quoi, peu importe. Ensuite, celui du dessus, ça va être le licencié. D'accord. Donc c'est celui qui va être licencié dans un club, donc qui a pris une carte d'adhésion entre guillemets, hein, un club. Et ensuite il y a celui qui s'investit dans le club, donc qui va devenir dirigeant, bénévole. Et ensuite il y a l'ambassadeur, c'est celui qui va vraiment faire des choses extérieures à son club, tel un arbitre, tel Voilà, ça peut être des choses un peu plus poussées qui va nous permettre de porter entre guillemets la bonne parole, parce que ce que tu dis, on est dans un secteur très particulier, mais nous sommes aussi une structure très particulière. Nous sommes pas un club de sport, par exemple.
Ouais.
Un club, quand moi je serais le club de Paris de Valois, par exemple, si on prend le club qui est en banlieue parisienne, eux, ils ont des fans, mais les fans, ils supportent leur équipe. Nous, on est la fédération. Donc, à part l'équipe de France, on reconnaît un peu cette ambiance de club où les gens vont être supporters de l'équipe. En général, la fédération, c'est l'institution qui n'a pas la bonne image, toujours. C'est nous qui allons mettre les amendes pour mauvais comportement le week-end. Et ces gens-là, ces fans, sont aussi des licenciés, certains. Et eux aussi, ils vivent les mauvais côtés de la fédération. Ils ne voient pas que le bon côté du résultat sportif, par exemple. Donc, c'est tous ces publics qu'il faut essayer d'appréhender de façon importante et essayer de les faire grimper, en fait. Le réseau social, c'est la première étape. C'est-à-dire, c'est par là que vous me connaissez. En grosso modo, si je caricature un peu, le réseau social à la fédération, c'est le flyer qu'on a dans notre boîte aux lettres. Hop, je le connais et je suis intéressé. Deuxième étape, c'est aller au magasin. Donc là, je suis licencié. Troisième étape, j'achète. Et là, je deviens impliqué par rapport à la marque. Et quatrième, je recommande. Et là, je deviens l'ambassadeur. Je recommande, cette table, elle m'a bien plu. Donc, c'est vraiment ces petites étapes qui sont intéressantes. Donc, les réseaux sociaux sont très importants pour nous parce que c'est la porte d'entrée, ni plus ni moins. Si elle est fermée, c'est mort. Donc, il faut créer de l'échange. Il faut séduire la personne. Il faut lui dire, allez, viens, tu vas voir, c'est sympa et tout. Donc, je caricature, bien évidemment. Mais, et c'est pas dans le sport, c'est un message assez positif. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle dans le sport. C'est très compliqué d'annoncer une mauvaise nouvelle. Si on relativise toujours par rapport à ce qui se passe dans le monde, une défaite, une grosse défaite, même en finale d'un championnat d'Europe, ça reste que du sport.
Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est parfois ça catalyse les émotions positives, parfois négatives. Donc, dans le sport, c'est vrai, je te rejoins. Effectivement, ça reste que du sport. Hein, encore une fois, surtout dans le contexte sanitaire actuel. Toi, ta problématique en tant que fédération, c'est que t'as pas le côté le plus fun du sport. C'est-à-dire que t'as pas les supporters, les amateurs d'un club et qui, de toute façon, vont mettre des choses sympas ou réagir un petit peu sur la page, mais vont faire un engagement. Toi, t'as le côté un petit peu plus politique, je pourrais peut-être dire. Alors, vous êtes présent sur plusieurs réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, tu l'as dit. Alors, en tant que Fédération Française de Basket, t'es pas forcément Paris Levallois ou les Sharks d'Antibes ou ce genre de choses. Comment tu communiques? C'est quoi votre ligne éditoriale sur chacun de ces réseaux?
Sur les réseaux, en fait, on essaie vraiment d'être proche des gens et essayer de comprendre ce qu'eux, ils attendent. C'est ça la principale difficulté, parce qu'il y a ce que nous, on veut dire et ce qu'eux, ils veulent entendre. J'aime bien me poser ce genre de problématique. On se la pose régulièrement, hein, pour tout vous dire. Généralement, tous les 6 mois, on se remet en question. On se dit, bon, est-ce qu'on est bien dans le bon tempo ou pas? Est-ce qu'il faut qu'on change des choses et tout ça? On a énormément de sujets à balayer en tant que fédération. Comme tu l'as dit, on a des trucs sympas et des trucs moins sympas. Quand c'est les équipes de France, c'est facile, entre guillemets. Les gens vont aimer l'équipe de France. On les emmène dans les coulisses de l'équipe de France, on fait un carton. L'équipe de France gagne des matchs, on fait des cartons. C'est pas très compliqué. Les gens vont forcément aimer que, quand on fait une vidéo hommage à Tony Parker qui prend sa retraite, les gens aiment bien la vidéo. Donc, c'est pas compliqué. Quand on vient dans des sujets un peu plus réglementaires ou des championnats un peu plus seconde zone, c'est un peu péjoratif ce que je dis, mais amateur, par exemple. Donc, l'amateur, ça peut très bien fonctionner si vous mettez en avant les acteurs. Parce que les gens veulent se voir sur les réseaux sociaux. En tant qu'amateur, on se dit, tiens, Fabrice Lamiro, demain, en une du top 10 de National 3, ça peut être sympa, quoi. Donc, on a envie de regarder et partager à ses amis. C'est ce genre de choses qui peuvent être sympas et qui peuvent créer de l'engagement. Aujourd'hui, les gens sont assez attentistes de ça. C'est-à-dire, ils aimeraient bien qu'on axe un peu plus sur eux. Donc, c'est toujours compliqué de trouver le contenu. Parce que le contenu, faut le créer, bien évidemment. Comme tu le sais, dans les championnats amateurs, tous les clubs n'ont pas forcément les moyens techniques et humains de créer du contenu de qualité qui serait en adéquation avec le reste du contenu. Parce que si tu passes un film HD, par exemple, quand tu emmènes les gens en coulisses en équipe de France et la semaine suivante, tu passes sur quelque chose de complètement pixelisé, tout ça, ça peut pas coller non plus. Donc, faut s'adapter aussi aux contraintes que l'on a. Donc, notre ligne éditoriale sur chaque réseau est vraiment adaptée au public. On essaie de trouver les axes qui vont permettre de toucher. Par exemple, sur Instagram, on fait de la photo, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, le réseau social Instagram est en train de changer. C'est celui qui change le plus. C'est celui qui a le plus évolué depuis qu'il est sorti. Quand il est sorti, on mettait juste une photo et il fallait que ce soit une belle image. Aujourd'hui, on est loin de ça quand même. C'est beaucoup de l'échange, c'est beaucoup de la vidéo. On va passer aussi sur des choses avec des effets, des choses un peu waouh. Qu'est-ce qu'on peut proposer que les autres ne proposent pas ? Il faut donner des rendez-vous, bien évidemment. Il faut qu'on soit rigoureux, il faut qu'on apporte du contenu de façon régulière. Mais il y a également toute une stratégie pour être en adéquation avec ce que l'on est soi. Parce que c'est compliqué d'avoir une promesse sur les réseaux sociaux. Et quand demain, je vais voir un match de basket, ben je me rends compte que la Fédé, c'est pas ça. Ils ont l'air super sympas sur les réseaux sociaux, mais dans les clubs, c'est pas ça. Ben non, faut que ça soit aussi du donnant-donnant. Les gens qui reprennent une licence, en général, ils vont la reprendre parce que le mec qui les a accueillis dans le club est vachement sympa, et parce qu'il fait c'est un bon entraîneur, et parce que les conditions sont bonnes, et parce qu'il y a ses copains qui jouent, mais en aucun cas parce que Sylvain a posté une vidéo super sympa sur les réseaux sociaux. Par contre, la vidéo peut donner envie d'aller faire du basket. Et c'est là notre rôle. C'est voilà, leur montrer tout le panel de ce que fait la Fédération de basket. Donc on a des sujets très variés, hein. On va parler du vivre ensemble. Nous, ce qu'on a catégorisé dans le vivre ensemble, ça va être du basket pour du public adapté, ça va être beaucoup de basket pour les enfants, beaucoup de choses, d'actions, donc soit ponctuelles, soit à plus long terme, qu'on fait vis-à-vis des enfants. On va faire des centres génération basket, par exemple, qu'on mène avec notre partenaire GRDF depuis quelques années maintenant. C'est des stages gratuits de basket pendant les vacances scolaires. Techniquement, c'est gratuit, c'est le club qui communique. Mais nous, on en parle parce que c'est une valeur forte de la fédération, permettre aux jeunes de pratiquer le basket. Après, là, on l'ouvre à tout le monde, c'est pas que des licenciés. Mais on est très content quand certains qui ont découvert le basket par ces centres de génération sont devenus licenciés après, bien évidemment.
Alors, c'est une problématique intéressante, effectivement, même pour d'autres secteurs autres que le sport. Hein. Tu as des fois des secteurs d'activité avec des franchisés ou autres, où j'essaie un petit peu d'aller un petit peu plus loin que notre conversation pour les auditeurs qui Mmh. Se dire, ben voilà, j'ai des franchisés, alors j'en ai qui ont des moyens qui sont vraiment dans un centre-ville ou qui est dynamique, etc. J'ai d'autres enseignes qui sont dans des endroits parfois un petit peu plus reculés, avec moins de moyens, un peu plus rural, ou avec d'autres managers, etc. Donc, toi, ton idée, c'est d'essayer d'être accessible à tous, de montrer, de prôner les valeurs finalement de ce sport, et puis de les rassembler sous la bannière FFBB, quoi.
Oui, c'est ça. Et puis, toujours avoir en ligne de compte. Moi, un truc que j'aime bien avoir en tête, c'est qu'on est on est un service public, parce que c'est pas le cas, on n'est pas le service public au sens propre du terme, mais on est au service du public. Une fédération, ça doit apporter des solutions à un club, ça doit apporter des solutions à un licencié. Nous, on est une fédération de clubs, donc notre interlocuteur, c'est le club. Mais si demain, un club me dit, bah, moi, je veux bien accueillir des jeunes, mais j'ai pas de créneau, j'ai pas de ballon, voilà. Nous, on a un service qui s'appelle le service promotion, qui aide les jeunes, les clubs à organiser des moments festifs dans leur club et qui propose des goodies, par exemple. Il suffit de faire des demandes. Enfin, voilà. C'est des choses qui ont été mises au fur et à mesure, mais ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Ça existait bien avant les réseaux sociaux. C'est, en fait, apporter des choses. Donc, aujourd'hui, quand on crée des outils de communication pour des événements créés par les, fait par les clubs que nous, on veut promouvoir. Donc, j'ai cité le Centre Génération Basket tout à l'heure, mais ça peut être la France Basket Camp, donc c'est des camps de basket pour l'été, ça peut être une séance de basket tonique, enfin, peu importe. Et ben, on va leur donner les outils techniques, c'est-à-dire on va leur créer des bannières web, on va leur créer des gifs animés un peu personnalisables ou complètement personnalisables qu'ils vont pouvoir mettre sur eux leurs réseaux sociaux. Aujourd'hui, les clubs, par exemple, moi, je connais bien le tissu des clubs parisiens, ils n'ont pas de salle attribuée. Ils vont s'entraîner sur plusieurs salles, par exemple. Donc, mettre une affiche dans une salle n'a pas de sens pour eux, parce que leurs clubs, leurs licenciés ne vont pas les voir. Par contre, tous leurs licenciés suivent leur club sur leur page Facebook, par exemple. Donc, avoir la bannière Facebook qui se colle sur le compte de l'association, ça a plus de sens. Donc voilà, ce genre d'initiative. Il a fallu adapter avec les réseaux sociaux et qui aujourd'hui nous permet de toucher du monde de façon beaucoup plus large.
Alors justement, c'est quoi les postes qui engagent le plus sur tes comptes ?
Alors nous, on a regardé, on regarde régulièrement, bien évidemment, tout ce qui marche et ce qui ne marche pas. Nous, ce qui marche énormément, bien évidemment, c'est la vidéo, comme beaucoup de personnes. Donc c'est des contenus à forte valeur ajoutée. Donc soit vous faites des vidéos où vous emmenez les fans en coulisses, comme en équipe de France, par exemple, ça marche très très bien. Les stories sur Instagram ont pris ce relais un peu. Avant, on payait une production, on sortait des épisodes réguliers et on complétait par des stories Instagram pour les coulisses des autres jours. Ça marche très très bien. Après, vous avez tout ce qui est UGC, donc c'est reprendre du contenu fait par des fans que vous allez poster sur vos propres réseaux. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est se voir, voir son tweet ou voir sa prestation reprise par la fédération. Il y a toujours un côté valorisant. Et c'est se dire, peut-être qu'un jour, ce sera moi. Donc, un jour, j'envoie mes vidéos de meilleure performance en espérant que la fédération puisse les commenter, les partager et les publier. Et ça marche aussi très, très bien. On a un partenaire qui s'appelle Rematch, avec lequel on travaille. Donc, c'est une application mobile qui vous permet de filmer quasiment en direct l'action et de revenir 3 secondes avant pour l'enregistrer. Donc, ça vous fait un petit clipping TV. De 3 secondes, donc vous êtes, qui est en train de regarder un match, vous voyez un dunk, vous appuyez sur votre bouton, il revient 10 secondes en arrière, il filme, et là vous avez votre petite vidéo de 10 secondes, et dessus il y a le dunk. Et donc vous pouvez la publier sur les réseaux, et donc ce genre de vidéo fonctionne très très bien dans le milieu amateur, on fait des compiles, et on essaie de faire élire les meilleurs paniers dans les championnats amateurs en général. Parce que les autres sont soumis à droit télé, donc c'est pas possible de faire comme ça.
Alors je crois qu'en fait tu viens de répondre à une de mes interrogations, c'est que sur le compte Instagram de la fédération, et t'as un super engagement, hein. Franchement, c'est vraiment bien, hein. Ça engage beaucoup, là. Il y a beaucoup de likes et de commentaires. Et notamment une publication que tu as mise il y a 5 jours, t'as un super engagement, c'est-à-dire que t'as 32 000 vues sur cette vidéo. Derrière, c'est repartagé. Tu l'expliques ça ou pas ?
C'est-à-dire que les gens ont besoin de ce contenu un peu de qualité. C'est-à-dire que nous, on essaie de faire toujours des posts de qualité. Et derrière, ils veulent du contenu un peu exclusif, un peu originaux, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils vont voir nulle part ailleurs. Donc, c'est vrai que quand on voit ce post au milieu que des photos équipe de France, c'est vrai que là, on était au milieu du confinement. On a décidé de faire beaucoup de choses rappelant l'historique, donc ça a beaucoup tourné autour de l'équipe de France, bien évidemment, en rappelant les médailles, en rappelant des choses importantes. Là, cette semaine, on est sur Sydney 2000, par exemple, les 20 ans de la médaille d'argent qu'on avait remportée aux Jeux Olympiques. Et au milieu de ça, on a posté cette vidéo du basket amateur parce que c'est la reprise des championnats, pour dire aux gens, voilà, il y en a qui ont repris déjà, et regardez ce qu'ils ont fait sur les terrains, ils ont fait ça. Et voilà, et les gens aiment ça, aiment voir des actions de jeu, aiment voir des jeunes jouer au basket, et ils espèrent qu'un jour ce sera eux, parce que là on est sur des championnats amateurs. C'est pas accessible à tout le monde, hein, parce que souvent c'est de la N2, N3, peut-être pré-national, mais c'est quand même, on s'adresse à un plus grand nombre. Et là on touche vraiment le second niveau que je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire au-dessus du digital, mais celui qui pratique aussi. Parce que beaucoup de nos fans sont des pratiquants, même s'ils pratiquent pas en club.
Alors ce qui est intéressant, c'est que pour tous, hein, qu'on soit fédération, club, sportif ou une marque de commerce ou autre. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément, les postes équipe de France marchent bien parce que c'est fédérateur, parce qu'ils sont de qualité aussi et parce qu'on connaît bien l'équipe de France. Et on peut faire aussi de l'authenticité avec des clubs qui sont à moindre visibilité, mais avoir un engagement qui soit même encore plus important, quoi. Donc les réseaux sociaux, c'est pas réservé à des super affiches ou des marques très fortes. Faire vraiment du bel engagement, mais simplement il faut de l'authenticité, et c'est ce que vous avez bien réussi à faire avec cette petite vidéo là.
Oui, alors c'est ce qu'on a fait avec cette petite vidéo, et puis je trouve que les réseaux sociaux, c'est une belle caisse de résonance sur l'état actuel de notre société. Il y a quelques temps, il y a 2 ans, on avait sorti une vidéo sur le contre le racisme, et cette vidéo a très très bien fonctionné. Bon, elle est magnifique, elle est très très belle, ça c'est aucun problème, mais au-delà de ça, c'est le message. Les gens ont gardé le message, et c'est on la ressort régulièrement à des moments où on a besoin de prendre la parole sur le racisme, sur des actes qui se sont produits, soit dans le basket, soit ailleurs, peu importe. Et on s'aperçoit que les gens adhèrent, parce que c'est un peu comme l'équipe de France, c'est obligé d'être d'accord, mais c'est pas pour se donner bonne conscience qu'on fait ça. C'est parce que ce sont des valeurs de la fédération. quand tu t'appuies sur des valeurs fortes, comme nous, on a la Fédération française de basket, et des situations réelles, c'est-à-dire que l'équipe de France, quoi qu'on en pense, l'équipe de France de basket véhicule une image aussi très positive. Il y a des joueurs qui ont des valeurs, ils sont là depuis très longtemps en équipe de France, ils jouent en équipe de France depuis très longtemps, on les connaît, comme tu disais, on s'identifie. Donc toutes ces valeurs, tout ce partage d'émotions, tout ça, permet de pouvoir communiquer assez naturellement. La fédération de basket a beaucoup travaillé là-dessus, souhaite que ça soit naturel, c'est ses convictions, c'est pas parce que on veut faire du politiquement correct qu'on fait des posts Insta avec des sourires. Non, non, c'est parce que les gens, ils ont des sourires sur les photos. Parce que c'est comme ça, c'est aussi notre trait de caractère. On est un sport où on est plutôt accessible, et ben, on l'est sur Instagram, on répond aux DM, on est sur Twitter, on est sur Facebook. Mais il y a aussi les joueurs qui sont accessibles. Quand vous allez aller voir un match de l'équipe de France, il n'est pas rare qu'il y ait une séance de dédicace organisée dans les 24 heures avant le match ou après le match. Il y a aussi, des fois, même c'est après le match, moi j'ai déjà vu des situations en équipe de France féminine où les filles sont restées une heure et demie sur le parquet à signer des autographes à la fin du match. C'est une vraie volonté de montrer ce basket accessible à tous. Tous les joueurs professionnels ont commencé dans des petits clubs. Donc, c'est qu'un juste retour des choses. C'est pas moi qui le dis, c'est Tony Parker. Donc, lui, si aujourd'hui il investit dans l'ASVEL, c'est parce que c'est un retour des choses. Il redonne à son sport. Voilà. Et je trouve ces valeurs vachement importantes. Et nous, eh ben, on essaie de redonner au club l'envie de faire du basket. On lui donne les moyens. Donc, on va lui donner des bannières Facebook. Alors, ça peut paraître dérisoire. Hein. On va pas forcément lui donner de l'argent ou signer des contrats énormes parce qu'on n'a pas cette politique-là et on n'a pas les moyens de le faire. Parce que si on le fait pour un club, il faut le faire pour 4500. Pour un, on n'a pas la tête, mais pour 4500, ça devient tout de suite compliqué. On ne peut pas le faire pour un licencié ni pour 700 000. Donc, vous voyez, c'est toujours le même problème. Mais par contre, essayer de les inciter à faire des choses, essayer de les encourager, tout ça, ça, c'est notre rôle. Et les réseaux sociaux permettent ça parce qu'on a raccourci ce lien. Donc, l'échange est plus rapide. Aujourd'hui, on a annoncé qu'on remettait le basket en clair sur l'équipe. Après avoir fait plusieurs années de télé payante, et ben les fans sont plutôt ravis. Voilà, le premier match était vendredi, je ne connais pas les audiences hein, aujourd'hui, mais je pense que les gens ont regardé parce qu'ils s'intéressent à notre sport, parce que c'est un sport, comme tu l'as dit en introduction, qui est populaire, même si on n'est pas à la place du foot, on est d'accord, mais on doit être le premier sport en salle, je pense sans trop me tromper, hein, en termes de likers, comme nous on aime les appeler, c'est les gens qui vont pas forcément pratiquer, mais qui vont aimer le basket. Il n'est pas rare de croiser dans la rue des gens qui ont des maillots NBA sur le dos. Enfin, voilà, s'ils n'aiment pas le basket, entre guillemets, Jeep Elite ou français, ils vont plutôt aimer le basket américain, mais ça reste du basket. Nous, on travaille pour le basket en général. Et donc, voir tout cela. Et il y a tout le travail social aussi qui est fait à la fédération, donc, parce que j'appelais tout à l'heure le vivre ensemble. Et ça, c'est très important pour la fédération. C'est des messages forts, c'est notre rôle de fédération, c'est à nous de porter ce genre de projet. Donc on le fait soit avec des partenaires comme les centres Génération Basket avec GRDF, soit sans partenaires non propres de la fédération, on lance des initiatives et après d'autres partenaires nous rejoignent et ça fonctionne forcément. Donc voilà, c'est tous ces messages qui sont très forts. Donc oui, c'est facile d'avoir des engagements forts quand on a des publics conquis à notre cause sur des sujets très particuliers, mais comme tu l'as vu, la vidéo qui fait le plus de réactions, ben, c'est de se voir, c'est du réel, c'est pas Tony Parker, c'est pas le titre de champion d'Europe en 2013, non, c'est une vidéo qui montre les championnats nationaux et régionaux, ça montre bien que les gens veulent qu'on soit proche d'eux et qu'on les montre eux.
Oui, alors justement, à travers ta ligne éditoriale, quand tu nous l'expliques, on voit bien et ça décrit assez bien pour, alors encore, au-delà du sport, hein, alors pour le sport, mais aussi au-delà. Hein. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut parler, mais il y a trois axes majeurs, c'est, on va dire, les trois P. Le P de produit, là, c'est le produit basketball, hein, c'est un sport et il est bien mis en avant. Et le deuxième P, c'est les personnes, il faut pas oublier de mettre les personnes en avant. Et là, tu l'as dit avec les joueurs, avec les clubs, avec tous les bénévoles ou tous ceux qui peuvent participer. Il n'y a pas que les structures pro, il y a aussi les structures amateurs. Donc, vous, dans votre entreprise, ça peut être vos employés aussi, ça peut être votre, voilà, le personnel, les équipes, les fournisseurs ou autres. Le P de produit, il est important, mais le P de personne aussi. Et le troisième P, c'est le pourquoi. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on est sur les réseaux sociaux? Mais aussi pourquoi, surtout, on a ce produit-là? Pourquoi on a ce service? Pourquoi on fait du basket? Pourquoi le basket, c'est bien? Et là, on place les valeurs, on parle des valeurs, on les met en avant. Et quand on regarde ta ligne éditoriale, que ce soit sur TikTok, Insta, Facebook ou autre, je regardais un peu pour préparer cette interview, ben on retrouve bien ces trois P. Hein. Il y a le produit sportif qui est là, évidemment, mais il y a aussi les personnes qui sont là, qui sont pas oubliées, les joueurs et le staff ou les bénévoles. Et puis le pourquoi. Pourquoi, c'est quoi? C'est les valeurs du basket. Pourquoi le basket, c'est vraiment un super sport, quoi. Et ce qui marche bien au-delà de tout ça, l'équipe de France, évidemment, ça cartonne parce que les visuels sont très beaux et on aime l'équipe. Mais il y a surtout l'authenticité, c'est ce que tu dis, avec parfois des clubs qui sont amateurs, qui n'ont pas la cote de l'équipe de France, mais par contre qui ont un engagement qui est absolument génial, quoi. Donc c'est aussi des bonnes pratiques que peuvent reprendre les marques ou les personnes qui nous écoutent pour leur dispositif. Est-ce que toi, justement, Sylvain, tu t'inspires des autres secteurs d'activité, des autres sports? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais de la veille pour voir un petit peu d'autres idées?
Alors, nous, on travaille beaucoup en équipe, donc on est plusieurs à faire de la veille, bien évidemment, selon nos affinités. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui sont inspirés par les sports US, notamment, la NFL, notamment la NBA, bien évidemment. C'est des leviers qui nous tirent vers le haut parce qu'ils ont des moyens colossaux et ils font des choses exceptionnelles. Ils sont toujours un peu avant-gardistes. Nous, on a la chance d'avoir la Fédération internationale de basket qui fait aussi des choses très, très bien. Et moi, à titre personnel, c'est vrai que j'ai tendance plutôt à aller voir le côté d'autres domaines pour voir comment nous, on peut l'appliquer à des problématiques que nous, on pourra avoir. Je pars toujours d'un problème chez nous pour voir comment d'autres y ont répondu dans d'autres domaines. Par exemple, un cas très, très précis, hein, le 17 octobre prochain, on a notre Assemblée Générale qui a lieu au Touquet Paris-Plage. La question, c'est comment je parle de l'Assemblée Générale sur les réseaux sociaux. C'est pas un sujet très, très intéressant dans l'absolu. Twitter, là, c'est assez vite tranché parce que c'est un sujet qui peut coller à la cible Twitter. Donc, c'est assez simple. Ça va être de la publication de visuels, mais ça va être aussi surtout de la publication d'informations. Mais après, quand vous voulez faire un truc sur TikTok ou sur Instagram Story, il y a 2-3 questions à se poser avant d'attaquer le sujet. Donc voilà, donc on regarde ce qui se fait à droite à gauche. On va essayer de faire des visuels avec des déclats fortes du président, par exemple. Pas forcément, le visuel sera plutôt joli pour éviter de reprendre un mec en tribune avec un micro en train de parler à la foule. Voilà, je pense qu'il faut essayer de sortir un peu de ces choses-là. Donc là, on va s'inspirer plus de Brut, par exemple. Voilà, ça peut être des choses assez simples. Hein. Il n'y a pas besoin non plus de faire des choses compliquées, il faut surtout faire des choses en fonction des moyens qu'on met en place. C'est-à-dire que pour l'Assemblée Générale, on ne sera pas 15 graphistes sur place, il n'y aura qu'une personne avec un ordinateur et elle aura Photoshop, quoi. Donc, elle se débrouille avec ça, grosso modo. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'on peut préparer en amont? Donc, c'est toujours ce genre de problématique qu'il faut se poser. Donc, moi, j'aime bien plutôt me poser ce genre de problématique dans ce sens-là. C'est-à-dire que je me dis qu'est-ce qui m'attend demain ou après-demain et qu'est-ce que je peux apporter comme réponse. Après, c'est vrai que souvent, je me balade sur les réseaux sociaux, mais c'est plus pour voir les nouveautés que proposent les plateformes plutôt que ce que font les autres, parce qu'on sait la difficulté de s'inspirer des autres. Bon, déjà, moi, j'aime pas trop être le second, dire d'autres l'ont fait avant moi, donc je vais le refaire. Donc s'inspirer, j'aime bien dire que s'inspirer n'est pas copier, mais il y a des limites quand même à ce jeu-là. Donc voilà, donc je regarde ce qu'il se fait, mais sans pour autant me dire je vais le reprendre tel quel. Où je vais exactement faire la même chose. Si par exemple une publication de score de fin de match me plaît beaucoup, je vais peut-être l'utiliser pour une autre utilisation.
Et toujours s'inspirer des autres et notamment des bons exemples qu'on peut voir, des best practices qu'on peut trouver par ailleurs. Dans le sport, il y en a beaucoup. Hein. C'est vrai que je suis assez friand de ce que fait la NFL aussi et la NBA. Il y a des bonnes pratiques à reprendre. On peut l'adapter aussi avec nos spécificités à nous, mais il y a des belles choses à reproduire. Et puis les réseaux sociaux en plus nous obligent à suivre l'actualité parce que tu l'as dit tout à l'heure, hein, Instagram a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de réseaux sociaux comme TikTok qui étaient des réseaux jeunes qui commencent à... On est passé juste de la petite danse avec la petite vidéo sympa à des thématiques beaucoup plus fortes comme Black Lives Matter, par exemple, qui étaient beaucoup relayées sur TikTok. Ça oblige aussi, ça contraint à bien suivre l'évolution des plateformes, des évolutions aussi des attentes du public. Dans un contexte sanitaire qui est pas simple, surtout pour le secteur du sport. Alors justement, Sylvain, pour conclure, peut-être c'est quoi les prochains défis, tes prochains défis au niveau de la fédération pour les prochaines semaines, prochains mois, peut-être prochaines années?
Notre premier défi, ça va être reprendre le jeu, quoi. On a lancé une grosse opération qui s'appelle Retour au jeu à la fin du confinement, donc c'était fin mai. Donc voilà, ça a incité les clubs à reprendre l'activité. On sait que c'est compliqué, on sait qu'il y a des cas Covid qui vous provoquent des forfaits et ainsi de suite, mais il faut qu'on continue d'appuyer là-dessus. Et donc ça, c'est le très court terme, entre guillemets. Et puis après, nous, en moyen terme, je dirais, c'est continuer à apprendre à connaître nos fans. Parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de plateformes qui sortent régulièrement et il est important pour nous de bien comprendre qu'est-ce qu'elles nous apportent, mais surtout comment elles fonctionnent. Parce qu'on ne s'adresse pas à quelqu'un sur TikTok comme on s'adresse sur Instagram, comme on s'y adresse sur Twitter. Ça, c'est une évidence quand je le dis comme ça, mais au quotidien, ça nécessite beaucoup plus de travail que ça. C'est-à-dire que ça nécessite peut-être que l'information, il ne faut pas la divulguer au même moment. Peut-être qu'il ne faut pas la divulguer de la même forme. Voilà, c'est plein de petites choses qu'il faut pouvoir analyser. Donc nous, ça va être aussi un défi de continuer ce travail d'adaptation par rapport aux réseaux sociaux, mais aussi de connaissance par rapport au public, le public que l'on a déjà et le public qu'on va essayer de gagner encore un petit peu chaque jour. Mais c'est vrai que dans la crise actuelle, on a toujours cette crainte du lendemain. Moi, je suis pas très craintif là-dessus. Moi, j'aime bien me projeter beaucoup plus loin. Donc, c'est vrai que les ambitions pour la fédération, c'est de continuer sa progression et surtout essayer d'améliorer son produit, apporter toujours plus de services, apporter du service à nos adhérents, nos fans, pour qu'ils puissent suivre mieux le basket, pour qu'ils puissent consommer du basket, entre guillemets. J'aime bien utiliser ce terme consommer, même si ça fait très commercial, alors qu'on vend rien du tout, à part une licence en début d'année. Moi, j'ai envie que les gens ils prennent leur téléphone, ils ont envie d'avoir les résultats, qu'ils les reçoivent sur des pushs. C'est des choses assez simples, hein, mais aujourd'hui, c'est pas forcément mis en place partout. Et donc, faut qu'on continue à travailler pour pouvoir le mettre de plus en plus, pour qu'ils aient accès à plein de choses, des vidéos de leurs matchs, pour qu'ils puissent récupérer. Enfin, on peut imaginer plein de choses avec les outils d'aujourd'hui. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire qu'on s'est rapproché de la base, mais aussi grâce à ces outils, ça nous permet d'aller plus loin et d'aller beaucoup plus vite, en fait. On va faire les choses, on n'a plus besoin d'un stand de production avec un monteur professionnel pour pouvoir faire une vidéo sur TikTok. En 2-3 montages, on arrive à faire quelque chose de très acceptable et on touche beaucoup de gens. Donc voilà, donc c'est des petites choses comme ça qu'il va falloir continuer à améliorer, à continuer à progresser. Et bien sûr, j'aimerais que la fédération soit dans cette dynamique et continue à l'impulser. On y est depuis pas mal de temps. On essaie de s'organiser, comme je vous l'ai dit en début d'intervention. On est réorganisé de façon à pouvoir répondre à l'ensemble des demandes, parce qu'aujourd'hui, toutes les demandes de communication ne partent pas que du service communication de la fédération. Et c'est là qu'on a besoin d'avoir une vision un peu transversale, comme j'ai pu vous la présenter ce soir. Parce que, tout simplement, aujourd'hui, on a de multiples demandes et il faut répondre de façon adaptée à chacun. Ça, nos grands défis de demain, c'est de pouvoir répondre aux gens de la meilleure des façons, quel que soit le support.
Ben justement, merci Sylvain pour ta conclusion. C'est aussi le mot de la fin, hein, les réseaux sociaux. Dans le mot réseau social, il y a le mot réseau, mais il y a aussi le mot social. On n'est pas juste à distance à travers des écrans, il y a des personnes derrière, le but, c'est aussi d'utiliser ces plateformes et ces médias pour faire du lien entre les personnes, surtout dans une période compliquée de crise sanitaire. Donc, c'est tout le bonheur qu'on va te souhaiter de réussir cette belle mission, là, ces beaux défis qui t'attendent. Écoute, on va suivre en tout cas tout le développement, le déroulé de tes plateformes. Je vais vous mettre en lien dans le podcast à la fin le lien vers les différents réseaux sociaux de la fédération, donc le Facebook, le Insta, le TikTok. Voilà, vous aurez tout. Puis je vous mets également un lien vers le profil LinkedIn, si tu me le permets, Sylvain.
Pas de problème.
Merci beaucoup, Sylvain.
Merci, Fabrice.
Et à toi, vraiment. Et puis, je te dis à très bientôt. Au plaisir d'échanger avec toi.
Avec plaisir. N'hésite pas et bon courage à toi. À bientôt.